With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Nadège a toujours souhaité devenir maman. Elle ne sait pas d'où vient ce désir, mais c'est aussi ce qui lui a donné envie de travailler auprès des enfants. Pendant des années, elle est infirmière puéricultrice au sein d'un service de néonatologie, faisant le lien entre les parents désemparés et les bébés prématurés. Puis, c'est enfin à son tour de donner la vie, et bien qu'elle soit du métier, elle galère dans son allaitement et ses débuts de vie de maman. Nadège retourne travailler et déjà son approche vis-à-vis des mères change. Maintenant, elle sait, elle comprend ce que les mères traversent. Pour sa deuxième grossesse, elle prend un congé parental de 2 ans et sa revanche sur son premier allaitement est courtée car celui-ci va durer 4 ans. Nadège retourne travailler à l'hôpital, mais la mauvaise prise en charge des femmes lors de leur accouchement et le manque de personnel et de moyens lui sautent de plus en plus aux yeux. Jusqu'à cette nuit qui va définitivement la convaincre de quitter son poste à l'hôpital et lui ouvrir de nouvelles perspectives pour enfin mettre en pratique l'accompagnement que toute future maman mérite. Un épisode doux et passionnant sur le parcours d'une mère et son regard de professionnelle sur les dérives de la maternité. Bonne écoute.
Bonjour Nadège.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Merci à toi de m'accueillir ici aujourd'hui. Je suis très 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 heureuse.
Alors on va revenir au tout début avant que tu sois maman. Quel regard toi tu portais sur la maternité? Est-ce que tu as toujours voulu des enfants ou tu pensais pas forcément?
Alors moi je pense qu'effectivement j'ai toujours voulu des enfants, c'est-à-dire que aussi loin que je m'en souvienne, même enfant, même adolescente, c'est vrai que je me suis toujours vue avec des enfants. Et j'ai d'ailleurs choisi un métier en lien avec les enfants puisque je suis infirmière puéricultrice depuis plus de 10 ans. J'avais hésité avec le métier de sage-femme.
Ah oui.
Donc voilà, toujours en lien avec le bébé, les enfants, la maternité. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, et en tout cas je me suis toujours vue maman, même plus tard. Oui, pour moi ça a toujours été une évidence, ça a toujours été vraiment un plaisir en fait d'accompagner les familles que j'ai pu croiser chaque jour en fait dans mon travail. J'ai essentiellement travaillé en service de néonatologie, donc avec des bébés prématurés ou des bébés nés à terme mais qui avaient quelques difficultés on va dire dans les premiers jours ou semaines de vie. Donc c'est vrai que c'était plutôt, j'étais dans les soins avec des bébés, on va dire, qui n'étaient pas forcément à 100% en bonne santé. Ouais. Donc c'était un accompagnement, je pense, encore particulier, plutôt que quand on travaille en service de maternité et où là, tout va bien, où il y a moins de stress et moins de pression pour les parents, pour les familles.
Qu'est-ce qui t'a attirée dans ce métier-là? Comment tu t'es dit un jour, je vais devenir...
Déjà, le fait qu'il y ait des enfants, ça c'est vraiment... je sais que quand j'ai cherché le métier que je voulais faire, puisqu'on nous demande ça assez tôt, hein, à l'adolescence, il faut faire des choix qui vont orienter nos études, etc. J'avais plusieurs choses qui me venaient en tête. Donc au départ, je me disais, tiens, je pouvais devenir psychologue pour enfants. J'ai pensé aussi au métier d'institutrice.
Oui, c'était très tourné vers les enfants, quoi qu'il en soit.
Exactement. Ouais. Et ensuite, je m'étais dit... j'ai plutôt envie de me centrer, sur les bébés, sur les naissances. Donc là, m'est venu le métier de sage-femme, jusqu'à ce que je voie un reportage à l'époque sur les sages-femmes. Et là, je me suis dit, en fait, non, il y a quand même des choses assez dures. Et du coup, suite au fait que je mette de côté le métier de sage-femme, je me suis orientée vers le métier d'infirmière puéricultrice. Donc c'est vraiment, à la base, je pense, peut-être plus le côté bébé, nouveau-né, naissance... qui m'a vraiment attirée, on va dire, pour dire de faire ce métier.
Ouais. T'étais entourée de bébés, toi?
Pas du tout.
Non.
Pas de bébés. Moi, je n'ai pas de frères et sœurs. Mes parents n'en ont pas non plus, donc j'ai pas de tout petit cousin cousine ou comment dire de personnes qui pourraient à peu près avoir mon âge ou qui soient un petit peu plus âgées et qui aient aussi plein d'enfants. Je savais même pas ce que c'était qu'une fratrie. Donc non, c'est vraiment que c'était là en moi, en fait, à l'intérieur de moi depuis toujours, je pense.
Et donc tu deviens infirmière puéricultrice. Est-ce que c'était un choix, ça, la néonate?
Alors oui. Le service de néonatologie, clairement, c'était un choix. Je pense que c'est vraiment le service dans lequel j'ai l'impression, en fait, d'être faite. Même si au jour d'aujourd'hui, je ne travaille plus en milieu hospitalier. Ça a été vraiment une passion, une révélation d'être, en fait, avec ces bébés qui sont aussi petits, qui sont fragiles et à la fois si forts parce que vraiment, ils se battent. Enfin, c'est vraiment incroyable. Et d'être vraiment dans l'observation. Je pense que vraiment, ce qui me captive le plus, en fait, c'est vraiment d'observer, que ce soit des bébés ou des enfants même plus grands, d'observer les comportements, les agissements, l'impact, en fait, par exemple, que peut avoir une lumière sur le comportement, mais aussi sur la santé du bébé, l'impact que peut avoir un bruit, que peut avoir un linge qui va être placé à tel endroit, à proximité de son corps, etc. La façon dont on le manipule, dont on le tourne. Tout ça, ça a beaucoup d'impact, en fait, sur le développement global de l'enfant. Et c'était très intéressant pour moi d'observer tous ces bébés, d'observer leur comportement et d'essayer en fait de créer vraiment cet environnement qui soit le plus propice possible pour qu'ils se développent le plus harmonieusement possible et dans les meilleures conditions de santé pour que ça se passe au mieux pour eux et de montrer aux parents aussi toute la beauté en fait de ces enfants-là parce que c'est vrai que souvent les parents d'enfants prématurés n'osent pas forcément trop les toucher ou les manipuler parce que c'est quand même assez compliqué. Il y a un environnement avec les couveuses, les fils, parfois les machines aussi pour aider à respirer, etc., les perfusions. Et donc, de mettre en lumière tout ce qu'il est possible quand même de faire avec ces bébés et les bienfaits, par exemple, du pot à pot quand on a notre enfant sur nous, etc., de montrer à quel point c'est important pour eux, la présence des parents, de faire tout ça en trio au final, puisqu'il y avait le bébé, le parent et le soignant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Enfin, j'ai vraiment passé des années fabuleuses à travailler dans ces services-là.
Parce que c'est quoi exactement le rôle d'une infirmière puéricultrice? Et c'est combien de temps d'études?
Alors, en fait, on fait 3 ans et demi à l'école d'infirmière. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, c'était comme ça. Plus après une année complète de spécialisation. Donc après, je sais qu'il y a certaines petites choses qui ont changé, notamment au niveau du nombre de stages, etc., et de la durée des stages. Mais moi, à l'époque, c'était comme ça. Et au final, en service de néonatologie, il y a plusieurs aspects, on va dire. Il y a à la fois vraiment le côté soins, santé, donc tous les soins et les actes qu'on va faire et qui sont sur prescription médicale, donc sur décision du médecin. Ensuite, il y a tous les soins de développement qu'on va faire. Donc là, c'est vraiment mettre en place des choses dans l'environnement du bébé pour qu'il soit le moins stressé possible et du coup qu'il puisse grandir et se développer avec le moins de soucis de santé possible. Parce que c'est vrai qu'un bébé qui par exemple est stressé, s'il a ce stress à cause d'un bruit, de la lumière à gérer, il sera moins en capacité, en tout cas il sera moins compétent par exemple pour téter.
D'accord.
Parce qu'il aura déjà le stress et l'environnement qui seront agressifs en fait pour lui et il ne pourra pas vraiment mobiliser toutes ses compétences pour téter. Alors que si on lui crée un environnement qui est le plus propice possible, ben, du coup on va vraiment se retrouver avec un bébé qui va pouvoir ouvrir les yeux, entrer en contact visuel avec son parent et communiquer aussi avec tout son langage non verbal et ensuite mobiliser ses compétences pour pouvoir acquérir la succion.
Et vous êtes le lien à ce moment-là avec tous ces parents qui sont un peu sous le choc ou effondrés.
C'est vraiment ça. On a aussi effectivement tout un rôle de réassurance auprès des parents, d'accueil, d'écoute aussi de leurs émotions, de leur vécu. Parce que pour beaucoup de mamans, en tout cas, c'est assez compliqué quand elles accouchent prématurément, psychologiquement et émotionnellement pour elles. Et ensuite, il y a aussi toute la valorisation des compétences, alors certes du bébé, mais aussi des parents pour justement aider à la création du lien. C'est vraiment, je pense que cette création du lien entre le parent et son enfant est vraiment, pour moi en tout cas, au cœur de mon métier depuis toujours, que ce soit en milieu hospitalier, en milieu extra-hospitalier ou là encore au jour d'aujourd'hui en tant qu'indépendante et en tant qu'autrice. Et d'ailleurs aussi, c'est ce qui ressort et c'est le fil conducteur de mon livre « Partager le meilleur avec mon enfant ». C'est vraiment ça, c'est vraiment le lien parent-enfant. Comment le créer ou comment le renforcer ? Parce que parfois, ça met du temps aussi à se créer.
Alors toi, au bout de combien de temps la maternité arrive dans ta vie perso ? À quel moment vous décidez avec ton conjoint de devenir parent ?
Alors... On a déjà beaucoup profité tous les deux.
Ouais.
C'était vraiment important pour nous de vivre notre couple en fait, de vraiment vivre tous les deux et de s'aimer à fond tous les deux et de profiter de la vie tous les deux. On a beaucoup voyagé également. Et donc moi, quand j'ai eu l'âge de 27 ans, je suis donc tombée enceinte de ma première fille et à 30 ans de ma seconde fille.
Et c'était une surprise ou c'était vous aviez décidé de devenir parent pour ta première ?
Alors on l'avait choisi, on l'avait vraiment décidé. Elle est arrivée, on va dire, à peu près 6 mois après qu'on se soit dit « bon, ok, ça y est, maintenant on est prêt
ouais.
et on veut agrandir notre famille et accueillir un nouvel enfant ». Donc 6 mois, c'est, même si je sais que c'est pas le plus long, mais c'est quand même assez long quand on le vit et qu'on attend, parce que c'est vrai que quand on se sent prêt et qu'on se dit « ok, bon ben maintenant, c'est bon, on peut agrandir la famille » et que 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois passent, cette attente est longue, parce que quand on est prêt, on est prêt. Enfin, moi, je sais que j'étais prête là tout de suite, en fait, parce que ça faisait déjà un moment que j'attendais ça.
Ah oui, toi, t'en avais envie déjà depuis quelques temps.
Oui, moi, vraiment, depuis... aussi loin que je me souvienne.
T'étais prête depuis toujours.
C'est un peu ça, ouais.
Et alors, quand tu découvres enfin ta grossesse, comment tu réagis ?
Alors, quand j'ai découvert ma grossesse, on était en voyage à Bali. Donc là-bas, c'était l'explosion de joie, de se dire « ok, mais donc là, ça y est, je suis vraiment enceinte ». Donc, c'était vraiment un très grand bonheur. Et donc c'est là-bas que je me suis acheté aussi un bola de grossesse. Enfin, il y a beaucoup de significations et beaucoup de choses qu'on a mis en place là-bas pour fêter ça. Ensuite, dans le trajet retour pendant l'avion, j'ai pas mal saigné. Et donc là, j'ai vraiment eu très peur. Et pour moi, j'étais en train de perdre mon bébé. Et en fait, non.
Mais t'as prévenu quelqu'un dans l'avion ? Ou que t'as géré ça toute seule ?
Non, j'ai géré ça toute seule avec mon mari. Enfin, vraiment, j'allais aux toilettes, j'avais ces saignements et je me suis dit, bon, ça y est, j'ai mes règles et c'est fini, en fait. Enfin, j'ai culpabilisé parce que je me suis dit que, comme on avait fait là-bas du scooter, etc., je me suis dit peut-être qu'on a fait trop de choses ou que, je sais pas, je me suis trop agitée et au final, le bébé s'est pas accroché. Donc, dans l'avion, ça a été très compliqué parce que moi, j'ai beaucoup pleuré. Et j'ai eu rendez-vous avec ma gynécologue quelques jours après notre retour, qui, elle, nous a confirmé qu'en fait, la grossesse était bien en place. Donc là, ça a été un grand soulagement.
Mais oui.
Et quelques jours après aussi, j'avais également rendez-vous chez ma dermatologue. Et donc là, j'ai appris que j'avais un mélanome, donc c'est un cancer de la peau. Et donc là, ça a été à nouveau une grosse descente aux enfers avec beaucoup de stress parce que je ne savais pas quel allait être le traitement, je ne savais pas s'il allait être compatible ou pas avec la grossesse. Donc il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de toi à ce moment-là et tu te dis « mais mince, si on me demande d'avorter pour pouvoir me soigner ». Et après tu te dis « mais non, en fait, ce bébé je le garde, c'est pas grave, je ferai les soins après ». Enfin voilà, tant qu'on n'a pas les médecins et toutes les informations... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête dans ce moment-là et qui ne sont pas forcément très agréables ni confortables.
Et tu étais allée voir cette dermatologue parce que tu avais des signaux qui te dérangeaient ou quelque chose qui... c'était juste un examen de routine ?
Non. En fait, j'avais fait enlever un grain de beauté juste avant qu'on parte en voyage à Bali. C'était un grain de beauté qui, moi, ne me plaisait pas forcément. J'avais vu une première dermatologue qui l'avait mesuré, qui l'avait vu et qui me dit « bon, voilà, on surveille, mais c'est OK, on le laisse. Et puis, quelques temps après, j'avais dit à mon mari, c'est quand même bizarre, il est noir et j'ai aucun crin de beauté noir. Alors, il n'était pas très gros, il était bien rond, mais il ne me plaisait pas trop. Et il m'avait dit, bah, écoute, change, va demander un deuxième avis, va voir ma dermato à moi et tu verras ce qu'elle va te dire. Et donc, elle m'avait dit, bon, bah, OK, on l'enlève. Et puis, on se revoit après quand j'aurai les résultats. Et c'est vrai que comme on est quand même parti 3 semaines à Bali, j'avais mon rendez-vous qui était prévu pour le retour en fait du voyage.
D'accord.
Et c'est là donc du coup qu'on a appris qu'il y avait ce cancer de la peau.
Et donc là, elle te dit quoi la dermato? Tu lui parles de ta grossesse, j'imagine.
Alors au final, il y a eu besoin juste entre guillemets d'une intervention chirurgicale. Donc, qu'on a fait sous anesthésie locale. Donc, je suis allée à Marseille me faire opérer, puisqu'à l'époque, on habitait Aix-en-Provence. Et donc, voilà, en fait, j'ai eu juste ce traitement-là. Et après, c'est vraiment un suivi et une surveillance très fréquente et régulière pendant 5 ans. Et ensuite, un peu plus espacée. Et pour l'instant, on croise les doigts, il n'y a rien eu de plus.
D'accord. Donc, aucun impact sur ta grossesse à ce moment-là?
Non, au final, la grossesse a pu se dérouler normalement. J'ai pas eu de traitement particulier à prendre ou de médicaments ou autre. Après, moi, j'ai eu beaucoup de stress, je dirais même pendant toute ma grossesse, parce que même au-delà de l'annonce, ensuite, il y a eu l'intervention à programmer, puis l'intervention chirurgicale, et ensuite, toutes les suites dues au mélanome, c'est-à-dire d'éviter le soleil, vraiment de rester le plus possible habillé avec un grand chapeau anti-UV, etc. Donc c'est vrai que quand on habite dans la région d'Aix-en-Provence et qu'on se balade l'été tout habillé avec un grand chapeau, on nous regarde un peu de travers. Donc c'était aussi apprendre à faire face au regard des autres quand on est différent des autres.
Oui.
Et ça, c'était pas forcément évident.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse, hormis ce côté compliqué?
Alors après, la grossesse en elle-même s'est plutôt bien passée. J'ai eu pas mal de contractions à partir de 4 mois et demi, si je me trompe pas. Voilà, où il fallait faire un petit peu attention, mais globalement, enfin, moi, je l'ai très bien vécu. J'étais très contente d'être enceinte. On a fait de l'aptonomie, tous les trois. Ensuite, j'ai pris aussi, j'allais prendre des cours dans une piscine, enfin exprès pour les femmes enceintes. Et là, je sentais vraiment beaucoup, beaucoup mon bébé bouger aussi. Donc, c'était vraiment beaucoup de bonheur pour moi, en fait, de la sentir vivante et bouger et de pouvoir communiquer avec elle. C'était vraiment magique. Et on a pris vraiment le temps, tant mon mari que moi, d'entrer en communication avec elle vraiment dès qu'on a pu et dès qu'on a su un petit peu comment faire. Et ça, j'en garde vraiment un souvenir fabuleux.
Et tu avais un projet de naissance particulier ou
Non, j'ai jamais eu vraiment trop de projets de naissance. Alors je sais qu'il y en a qui écrivent, effectivement même qui rédigent des projets de naissance. Moi, j'en ai jamais fait. Après, pour ma première grossesse, ma fille était en siège décomplété. Donc au final, ma gynécologue a choisi que l'on opte pour une césarienne programmée. Donc voilà, je savais vraiment quel jour, à quelle heure mon enfant allait naître. Donc ça, c'est un peu particulier.
Comment tu l'as vécu, le fait de devoir faire cette césarienne?
Alors, je ne sais pas comment dire, c'est un peu ambivalent. D'un côté, j'avais très peur d'accoucher tout court, sans parler de césarienne ou quoi. Donc quelque part, je pense que c'est venu un peu soulager ça.
C'était quoi tes peurs?
Je sais même pas l'expliquer. Peur de ne pas savoir faire, en fait, de pas arriver à ce qu'on la sorte. Et au final, j'avais aussi quand même peur de cette césarienne parce que les médecins, gynécologues ou ce que tu veux, parle beaucoup de chirurgie. En fait, dès qu'on te parle de césarienne, on te parle plus de naissance, on te parle plus d'accouchement, on te parle vraiment de l'intervention chirurgicale pour ta césarienne. Et ça, c'est assez perturbant. Parce que quelque part, on a l'impression qu'on nous dépossède, en fait, de cet accouchement. C'est comme si on subissait. Et du coup, j'ai eu la chance, en fait, avec la sage-femme qui nous suivait pour l'aptonomie, de vraiment travailler sur ça pour être actrice le jour de la césarienne, et de ne pas être passive. Donc en fait, il y a eu plusieurs séances où elle nous proposait de fermer les yeux, enfin surtout à moi du coup, de fermer les yeux, où elle faisait plein de bruit dans la salle, elle ouvrait, elle fermait des tiroirs, elle prenait du matériel, etc. Et puis ensuite, elle a imité le bruit de l'aspiration du liquide amniotique. Et elle m'a dit, à partir du moment où tu entends ce bruit-là, tu pousses. Et tu pousses par le ventre. Et donc en fait, tout ça, elle m'a vraiment appris à le faire. Et pour moi, ma césarienne qui était programmée, pas du tout dans l'urgence, etc. Donc vraiment, je pense avec des conditions aussi, j'ai envie de dire, un peu idéales. Quand j'ai entendu et que j'ai reconnu ces bruits, j'ai poussé. Et ensuite, on l'a sortie et ensuite, on m'a montré ma fille. Donc vraiment, pour moi, j'ai été actrice de cette césarienne et pas du tout passive. Et pour moi, j'ai bien accouché de ma fille et pas juste subi une intervention chirurgicale le jour de sa naissance. Et ça, pour moi, ça change tout dans le vécu de la mère et c'est quand même très, très, très important.
Donc en fait, on pourrait tout à fait faire des préparations à l'accouchement par césarienne.
Ah ben, ma foi, j'en rêve. Je pense que vraiment, ça changerait beaucoup, beaucoup de vécu. Parce que des fois, c'est pas forcément trop bien vécu par les mamans. Elles n'ont pas forcément toujours un bon souvenir. Et puis après, il y a, suivant les maternités, des endroits où on est séparé de notre enfant pendant 2 heures. Moi, je sais que j'ai eu de la chance de l'avoir en peau à peau directement à la sortie du bloc. Donc, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place et qui ne sont pas du tout encore... mise en place partout en France et pourtant qui sont des petits riens mais qui permettent vraiment de changer je pense beaucoup de choses dans les souvenirs des mamans et qui du coup pourraient éviter certaines blessures psychiques.
Et oui, complètement. Et alors la rencontre avec ta fille, comment ça s'est passé?
Du coup, je pense comme beaucoup de césariennes, on nous montre l'enfant, donc on le passe du côté du drap où il y a notre tête. Et donc là, j'ai fondu en larmes. Et vraiment, je me souviens de l'anesthésiste qui m'a dit « Mais Madame Pétrel, pourquoi est-ce que vous pleurez ?» Et vraiment, en pleurant, je lui dis « Elle est trop belle !» Et là, il m'a dit une phrase. Il m'a dit « Mais c'est la plus belle !» Et en fait, comme ça, ça semble rien. Mais je te promets que quand t'es en plein chamboulement hormonal, en train de découvrir ton premier enfant et te dire « ça y est, elle est là, elle va bien, tout va bien », et qu'en plus on te dit ça alors que toi t'es en admiration devant ton enfant, et bien tu te dis « ah ouais, il a raison, c'est la plus belle ». Et du coup, à chaque moment après que j'ai rencontré, et pour qui tout se passait bien, enfin voilà, où on était vraiment dans un contexte où on pouvait se permettre de dire des choses comme ça, à chaque fois que des mamans me disaient « oh là là, qu'est-ce que mon enfant est beau », etc. Je dis « mais c'est normal, c'est le plus beau ou c'est la plus belle ». Et vraiment, j'ai gardé cette phrase parce que moi, elle m'a fait tellement de bien que je me suis dit « il faut que je la transmette à un maximum de mamans ».
Et t'avais décidé d'allaiter ?
Oui, j'ai voulu allaiter, et ça pour mes 2 filles. Et donc c'est vrai que de l'avoir en peau à peau directement après la césarienne, ça a permis justement de faire une mise au sein quasiment immédiate. Je ne sais pas, il y a peut-être eu un quart d'heure de décalage entre le moment où elle est née et le moment où j'ai pu l'avoir sur moi. Ça a été vraiment rapide.
Et comment ça s'est passé l'allaitement pour toi ?
Alors à la maternité, ça s'est bien passé. Et ensuite, à la maison, ça a été un peu compliqué. Alors moi, à l'époque, j'étais pas du tout accompagnée par une consultante en lactation. Et je pense que, clairement, ça m'a manqué. Et du coup, je l'ai allaitée, alors 4 mois exclusivement, et jusqu'à 6 mois. Après, en complétant avec des biberons, sachant qu'effectivement, j'ai repris le travail à 4 mois et demi. Donc c'était assez précoce aussi. Alors je sais qu'on peut tirer son lait, etc., sur son lieu de travail, sauf qu'en fait quand tu travailles en service de néonatologie, ou des fois sur ta journée de travail t'as pas le temps d'aller faire pipi, tu peux. Enfin, moi je sais que voilà, il y avait des conditions qui faisaient que tu peux pas t'arrêter. En fait, tu peux pas laisser les bébés qui vont pas bien, qui sont en détresse respiratoire. Tu peux pas laisser tes collègues poser une voix centrale sans toi. Enfin, c'était pas forcément compatible. Voilà. Avec mon métier et le travail à l'époque, en tout cas pour moi. Donc forcément, après, quand tu tires pas ton lait, la baisse de lactation arrive assez rapidement.
Et alors justement, ton retour au travail en étant maman toi-même cette fois-ci, est-ce que tu as senti un autre regard sur ce service néonat ?
Ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Et surtout, je pense, dans mon approche par rapport aux mamans. C'est vraiment, je pense qu'en fait, au-delà d'avoir la connexion de lien de professionnel à la maman de tel enfant, j'avais en parallèle cette connexion de mère à mère. Enfin, c'est vraiment, j'avais les deux et j'ai toujours les deux en fait quand je côtoie les mamans. J'ai à la fois la professionnelle qui est en moi qui parle et à la fois la mère que je suis qui parle et qui comprend. Vraiment pour moi, avant d'être mère, je ne mesurais pas ce qu'elle pouvait vivre. Et encore, moi, j'ai pas vécu voilà, la prématurité. Alors que depuis que je suis devenue maman, que j'ai compris ce que c'était que les galères d'avoir une césarienne, d'avoir à essayer de se bouger, de se mobiliser avec toutes les douleurs liées à la césarienne, le vécu de qu'est-ce que c'est que de vivre avec un bébé H24, d'avoir à s'en occuper jour et nuit, non-stop, de répondre à des besoins intenses et fréquents, parce que bon, en tant qu'infirmière puricultrice, on s'en occupait hein, des bébés toute la journée, etc. Mais il y a toujours un moment où tu rentres chez toi et tu coupes, et tu te ressources, et tu fais des choses qui te font du bien, à ton rythme, etc. Puis tu repars au boulot le lendemain. Là, c'est pas ça.
Là, ça tu ne l'as s'arrête
tout
plus.
Le temps. Voilà, c'est ça, c'est du non-stop. Et du coup, ça m'a permis vraiment de comprendre tout un tas de choses que je ne mesurais pas. Mmh. Et du coup, c'est vrai que dans l'approche que je peux avoir auprès des mères, il y a beaucoup de choses qui ont changé, à la fois dans le choix des mots, à la fois dans ce que je peux leur proposer également, de ce que je peux leur dire. Enfin, vraiment, c'est... Je ne vais pas dire que c'est radical, mais il y a eu un gros virage.
Et en tant que maman, alors toi qui attendais ça depuis toujours, comment tu as vécu tes premiers pas dans la vie d'une maman ?
Alors, les tout premiers jours où on était à la maternité, parce que j'y suis restée pendant 5 jours, étant donné que j'avais eu la césarienne, c'était idyllique. Vraiment, sur un petit nuage, avec mon mari qui était là, où on faisait connaissance. Vraiment, j'en ai un souvenir incroyablement beau. Et ensuite, donc, il y a eu le retour à la maison, mon mari qui est parti au travail, et donc moi qui me suis retrouvée seule avec mon bébé, puisqu'on habitait aussi loin de la famille. Et là, je pense qu'il y a eu une petite descente aux enfers.
Ah oui.
Vraiment. Ça a été très compliqué, elle pleurait beaucoup. Du coup, j'ai appelé des amis à moi, qui étaient infirmières puricultrices aussi, je leur disais ce qui se passait, je leur demandais de l'aide. Et puis je me souviens d'une amie qui m'a dit « mais... si c'était une maman de la néonate qui te posait cette question, tu lui répondrais quoi ?» Et là, je lui ai dit, je lui dirais ça, ça, ça. Elle m'a dit, tu vois que tu as les réponses. Je dis, mais non. Et si jamais tout ce qu'on leur disait, c'était faux. Je remettais vraiment tout en question. Et ça, je pense que vraiment, c'est dû aussi à la chute hormonale, etc. Hein, mais
le cordonnier mal chaussé.
C'est un peu ça, ouais. Donc vraiment, c'était compliqué. Et puis, je pense qu'on... J'ai pas senti le soutien de notre entourage comme je me l'étais imaginé. Mmh. Et ça aussi, ça a été compliqué. Je pense qu'on s'est senti vraiment seul avec notre bébé.
T'imaginais quoi, toi ?
J'imaginais vraiment que, voilà, que nos parents seraient là et qu'ils prendraient plaisir à nous voir avec notre bébé, etc. Que quand on aurait des questions ou quoi, il serait là aussi pour y répondre et c'était pas ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti.
Et donc, ça t'a pris combien de temps pour sortir un petit peu de ce tourbillon
Alors, je pense que les 3 premiers mois postpartum, clairement, ça a été très compliqué. Ensuite, alors nous, c'est vrai qu'à ces 2 mois, notre fille, elle s'est mise à dormir de 20h le soir à 8h le matin, donc on va pas se mentir, ça nous a aidés, clairement. Ça fait pas tout. On va pas se mentir là-dessus non plus. Par contre, c'est vrai que quand tu as moins de fatigue, tu peux avoir aussi les idées un petit peu plus claires, un peu plus de patience, etc. Donc il y a plein de choses qui en découlent. Mais je pense que la première année a été assez étrange parce que tu découvres tout et puis ton bébé a de telles acquisitions, que ce soit au niveau moteur ou du comportement, etc. Et du coup, tout est nouveauté, en fait. Il y a toujours quelque chose de nouveau, des choses auxquelles tu n'étais pas forcément préparée et auxquelles il faut que tu fasses. Donc, tu as les acquisitions motrices, et puis tu as le premier Noël, les premières vacances, le premier anniversaire. et tout ce que ça implique aussi autour dans les organisations, etc. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer avec un bébé? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la maison sans déplacer toute ta maison avec? Donc voilà, c'était assez étrange. Ouais, je pense que c'est le mot que je dirais.
Et donc au bout de 3 mois, après, c'est bon, t'as pris tes marques et...
Enfin, au bout de la première année.
Ça a mis un peu de temps.
Oui.
Et donc, une fois que tu as pris tes marques en tant que maman, tu es retournée bosser, vous avez décidé de faire un deuxième enfant, un an et demi après ?
Oui, à peu près, puisqu'elles ont 2 ans et demi d'écart. Donc, en fait, quand notre fille est née, elle a eu 9 mois, moi, je suis tombée enceinte. Là, pour le coup, c'était pas choisi. Donc c'était assez perturbant parce que moi je me disais mais comment est-ce qu'on va faire, elle est toute petite et moi je suis pas forcément prête. Mon mari lui était à fond, il me dit ah mais si tu vas voir on va gérer machin, je suis bon. Ok, j'étais très surprise de sa réaction et en même temps très contente aussi.
Ouais.
Et au final ce petit bébé là par contre lui n'a pas pu s'accrocher. Ensuite donc on a un peu plus tard, on s'est dit bon ok, on a envie que notre fille ait un petit frère ou une petite sœur. Et là aussi, il y a un deuxième petit bébé qui n'a pas pu s'accrocher. Et là, ça commence à être dur un peu psychologiquement, parce que tu te dis, ok, il y en a deux là qui se sont envolés, et qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que pour le premier, tu culpabilises. Enfin, moi, j'ai beaucoup culpabilisé, parce que je me disais, bah, c'est parce que j'ai eu le doute de savoir si je voulais le garder ou pas, c'est de ma faute, etc. Et puis pour le second, tu dis, bon, bah là, on était vraiment décidé et prêt, et au final, ça marche pas non plus, donc il y a beaucoup de remises en question, etc. Et je parle même pas du fait de vivre, en fait, ces pertes, parce que enfin, en tout cas pour moi c'était de véritables deuils et pour moi encore ce sont de véritables enfants qui se sont envolés. Et ensuite effectivement notre deuxième fille est arrivée et s'est accrochée jusqu'au bout.
Alors comment tu prends cette nouvelle annonce de grossesse après ces 2 fausses couches?
Alors là c'est la joie. La grosse joie, ouais. Avec toujours quand même, je pense, un peu d'appréhension pour les premières semaines, bah avec tout ce qu'on entend justement par rapport aux fausses couches, par rapport à ce fameux premier trimestre, etc., qui n'aide pas, j'ai envie de dire, les mères à s'investir leur bébé dans les premières semaines de vie in utero. Mais pour autant, voilà, on est très contents. Et pour cette deuxième grossesse, on a fait le choix de ne pas connaître le sexe de notre bébé, contrairement à la première où là, on l'a su assez tôt. Parce que vraiment, on s'est dit, en fait, voilà, on a envie d'avoir la surprise. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses en nous. Et ça aussi, c'est vrai que j'en parle dans mon livre. C'est qu'en fait, pour notre fille aînée, donc on attendait une fille, puisqu'on connaissait son sexe. Pour la seconde, on attendait un bébé. Et ça change beaucoup de choses, même dans les représentations en fait, qu'on se fait. Parce que pour notre premier enfant, on se projetait même avec un bébé plus grand, tu vois, ou voire limite une petite fille en fait, qui a déjà 15 mois ou 18 mois. Alors que là, on imaginait vraiment une sorte de... Enfin, moi, j'imaginais un bébé tout nu. Voilà, un bébé. Donc, c'est vrai qu'on est plus, j'ai envie de dire, dans l'attente et dans l'accueil, en tout cas... pour nous, du jour de la naissance, en fait.
Comment se sont passés les 9 mois de grossesse ?
Alors, ils se sont très bien passés. Pour cette grossesse-là, pas de mauvaises nouvelles en vue. Donc ça change beaucoup. Et surtout, je pense que je ne l'ai pas vu passer. Je pense que quand on a un premier enfant, la deuxième grossesse, pour dire de l'apprécier, quand ils sont rapprochés comme ça... c'est plus compliqué. En tout cas, j'ai moins pris le temps d'être en contact et être en relation avec mon bébé. Et je sais qu'il y a des jours, je me dis « Waouh, mais en fait, il y a déjà tant de semaines ou de mois qui sont passés et je ne les ai pas vus passer. »
Et donc là, pour ton deuxième accouchement, est-ce qu'il était question de faire encore une césarienne ou tu as pu accoucher par voie basse ?
Alors là, j'ai eu la chance de pouvoir accoucher par voie basse. Donc en fait... À partir du moment où tout allait bien, ma gynécologue m'avait dit « voilà, on tente ». Et c'est vrai que j'ai eu la chance en maternité d'être accompagnée par une sage-femme qui a vraiment été à mon écoute, à la fois par rapport à ce choix de tout faire pour que ça se passe par voix basse, et à la fois à l'écoute de moi et de ce que je pouvais ressentir sur le moment, et puis à l'écoute de notre bébé, de comment est-ce que lui il réagissait par rapport aux heures qui défilaient, etc. Et c'est vrai que là, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir vivre un accouchement par voix basse et du coup, de connaître les contractions, etc., que je n'ai pas du tout connues, au final, pour ma première fille.
Alors, comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé.
Ouais.
J'ai commencé à avoir des contractions dans la nuit. Je n'avais pas du tout compris que c'était des contractions. Je pensais juste que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et au bout de la troisième fois où j'y suis allée, et où, au final, j'ai rien fait, j'ai commencé à me poser des questions. Mais ça a mis du temps. Et au final, donc, on a des amis qui sont venus à la maison pour garder notre fille aînée. Nous, on est partis à la maternité parce que, par contre, j'avais comme consigne, comme j'avais un utérus cicatriciel, de pas forcément attendre des heures et des heures à la maison, mais de venir plutôt à la maternité. Ensuite, là-bas, donc, ils m'ont posé un monitoring et je suis restée assez longtemps allongée sur le dos, sur un brancard. Et c'était pas du tout confortable pour moi, pour le coup. On a dit à mon mari que je pouvais bouger, me mettre sur le côté, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que je me mettais sur le côté, on n'entendait plus le cœur du bébé. Et honnêtement, c'est flippant.
Voilà. Ouais.
Donc en fait, je me remettais à chaque fois sur le dos, quitte à souffrir. Et je me suis dit, c'est pas grave, mais j'ai envie d'entendre son cœur et d'être sûre que tout va bien. Et du coup, j'y suis restée tellement longtemps. Parce que vraiment, je crois que ça durait presque une heure, alors qu'à la base, il devait durer 15 ou 20 minutes, je sais plus. J'ai demandé donc la péridurale. Et au final, la péridurale n'a pas marché. Mais ça aussi, en fait, je m'en suis rendu compte qu'après... Je pense que quand t'es en train d'accoucher, comme ça, fin, ou en pré-accouchement, et que t'as les douleurs, et que... Enfin, je sais pas, t'es là, mais t'es pas là. Enfin, je sais pas comment dire, en fait. C'est un peu comme si t'étais entre deux mondes. Et du coup, je sentais effectivement ces douleurs qui s'intensifiaient. Et je disais à mon mari que vraiment, j'avais mal. J'avais beau appuyer sur ces bolus... J'avais rien qui se passait et je lui ai demandé d'aller voir la sage-femme pour lui en parler. Et puis au bout d'un moment, moi j'avais envie de pousser. Et la sage-femme, elle me dit non, c'est pas le moment, machin. Et puis au final, je me suis un peu planquée sous les draps et je poussais. Je me souviens, j'étais sur le côté et je poussais. Je me disais, mais il faut qu'elle sorte, enfin qu'il sorte le bébé. Et quand l'anesthésiste est revenu, il me dit non, mais en fait, ça marche pas. Enfin, c'est pas normal en fait que vous ayez besoin d'un bolus aussi souvent. Je dis, mais moi j'en sais rien. Parce qu'il me disait ça comme si c'était une évidence, mais moi j'en sais rien en fait. Je suis dans mon truc en train de vivre mes contractions, j'ai autre chose à penser. Et donc là, il me l'a reposé. La sage-femme m'a dit que j'étais dilatée à 10. Moi j'ai fait un petit dodo et ensuite il y a eu l'accouchement.
T'avais plus envie de pousser à ce moment-là.
J'étais fatiguée. Ouais. C'est ça, j'avais poussé avant, mais.
Et alors la rencontre, parce que là tu découvres le sexe de ton enfant au même moment.
Alors ben justement, cette rencontre, j'ai envie de dire classique, voilà, où on a mis mon bébé sur moi. Mais c'est vrai qu'on a eu, alors je ne sais pas dire qui, mais une personne en fait de la maternité qui nous dit « alors, vous ne voulez pas savoir son sexe ?» Et c'est vrai que cette personne-là nous a un peu cassé le truc parce que, en fait, on était en train de rencontrer notre bébé et oui, on s'en foutait, en fait, là, tout de suite, du sexe. Et du coup, on fait, oui. Donc, c'est là qu'on a su assez rapidement, après qu'elle soit sortie, que c'était une petite fille. Mais c'est vrai qu'en fait, on a l'impression que le personnel était plus impatient que nous, en fait. mais ça s'est bien passé. Et puis ensuite, entre-temps, mes beaux-parents et mon papa, je crois, sont arrivés. Du coup, ils avaient pris le relais auprès de notre fille aînée et puis ils nous attendaient à la maternité. Donc après, il y a aussi eu la rencontre avec sa grande sœur.
Oui.
Qui, avec une hâte, c'était de la voir et puis de la pousser dans son berceau.
Et alors, le retour à la maison, cette fois-ci, est-ce qu'il a été un peu plus doux ou pareil, c'était compliqué les premiers mois?
Alors là, c'était différent. Vraiment différent, mais compliqué aussi. En fait, moi, tout me semblait très compliqué. J'avais du mal à m'investir mon nouveau bébé. J'avais du mal à me demander, enfin à me dire pourquoi elle était là. Et je sais que quand ma consultante en lactation, parce que cette fois-ci, j'ai fait appel à une consultante en lactation parce que j'ai eu beaucoup de soucis pour allaiter aussi. Donc, elle a été très, très, très présente pour moi et je la remercie grandement. Elle me demandait de venir à des ateliers de massage bébé Et donc, j'y allais. Mais j'étais comme un zombie. Enfin, c'était vraiment... je sais pas comment dire, comme si j'étais en pilote automatique, à prendre les affaires, prendre mon bébé, aller là-bas, m'asseoir, voir toutes ces mamans heureuses, tous ces bébés qu'elles massaient. Et puis moi, c'était toujours le moment ou de la tétée ou qu'elles fassent dodo. Donc en fait, j'avais vraiment ce sentiment d'être en décalage complet. C'était très compliqué pour moi. Enfin, tout était compliqué. Mais j'ai été bien entourée, bien soutenue. Que ce soit par mon mari ou par des amis qui étaient là sur place. Et c'est vrai que mon mari avait peur que notre deuxième fille ne se sente pas aimée, par exemple.
Ah oui.
Et du coup, il s'en occupait beaucoup. Il s'en occupait beaucoup et il lui parlait beaucoup. Parce que, oui, je pense qu'il a vraiment eu peur parce qu'il m'a vue vraiment pas bien.
Ça a duré combien de temps ?
Je suis incapable de te dire. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Moi, ça m'a semblé être une éternité, mais je sais pas.
Il n'y a pas un matin où tu t'es levé en te disant bah, c'est bon, maintenant tout va mieux.
Ça, non, je pense que vraiment, ça s'est fait exactement. Ça s'est fait progressivement, avec le temps, avec le soutien de tout le monde. Alors, je sais que j'avais aussi une amie qui n'était pas du tout dans la région d'Aix-en-Provence, mais avec qui j'ai échangé beaucoup. Parce qu'elle aussi, elle a accouché. Enfin, on a accouché quasiment en même temps. Et elle ressentait aussi cette... Enfin, moi, j'ai pas eu de diagnostic, mais pour moi, c'était vraiment une dépression postpartum. J'avais vraiment cette sensation d'être au fond d'un puits, tu vois. Un puits vide, oui. Certes, oui. Mais dans un trou noir, en fait, dans lequel t'essayes de sortir et t'as l'impression de faire un ou deux pas vers la lumière et pff, t'en refais cinq dans le noir, quoi. Et c'est vrai que de pouvoir aussi parler librement avec elle de toutes ces sensations, de me sentir comprise, de me sentir entendue, écoutée, et de voir que j'étais pas seule à le vivre, oui. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée.
Et tu as repris le travail rapidement
ou... 2 ans après, puisque j'ai pris un congé parental. Et après, voilà, enfin, ça s'est très bien passé. Et tu vois, enfin, voilà, j'ai voulu garder ma fille jusqu'à ses 2 ans, donc. Le lien, pour le coup, a mis peut-être un peu de temps à se créer, même si sur le moment, il était au moment de l'accouchement, tout allait bien, j'étais très contente, etc. Et c'est quelques temps après que ça s'est un peu dégradé, mais on a mis des choses en place, voilà, pour ouais. Que ça puisse se guérir.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un congé parental ? C'était décidé déjà avant l'accouchement ou ça s'est fait après ?
Alors, honnêtement, ma motivation première, c'était que je m'étais dit, il est hors de question que mon travail m'empêche d'allaiter mon enfant. Donc, en fait, ça, mon allaitement, c'était la raison number one. Et je l'ai allaité pendant 4 ans.
Ah oui,
donc, voilà, vraiment, voilà, ça a pu se mettre en place comme il faut, en étant accompagnée, aidée par cette consultante en lactation. Et au final, après, ça a roulé.
Et donc, tu as décidé ça à quel moment ?
Alors ça, c'était même avant d'accoucher.
Oui, d'accord.
Ça a toujours... c'était acté depuis que j'étais enceinte, en fait.
D'accord.
On savait que ça se passerait comme ça.
Et donc, tu es retournée travailler au bout de ces 2 ans ?
C'est ça. Donc, en fait, entre-temps, on a déménagé en région toulousaine. Mmh. Et c'est vrai que là, je suis allée de CDD en CDD dans différentes essentiellement maternités ou services de néonatologie. C'était très compliqué pour moi parce que, en fait, j'ai fait plusieurs formations au cours de ma vie professionnelle. Donc, notamment, comme je le disais tout à l'heure, des formations en soins de développement, donc très basées sur l'observation du bébé et créer vraiment un environnement le plus cocooning possible, etc. Entre-temps, donc, j'étais maman 2 fois. Donc, comme on l'a vu, ma maternité a aussi changé beaucoup de choses dans la professionnelle que j'étais.
Oui.
Et c'est vrai que pour moi, être à l'écoute des mères et de leurs souhaits à elles, clairement, c'était ma priorité. Et ensuite, j'ai fait différentes formations sur le portage bébé, le massage bébé, sur l'allaitement maternel. Donc en fait, sur tout un tas d'outils qui peuvent aider donc à créer ou à renforcer ce lien parent-enfant. On en vient toujours au même point. Mmh. Et c'est vrai que bah, du coup, je suis devenue une professionnelle, on va dire, de plus en plus exigeante, si on peut le dire comme ça. Ou en tout cas, je pense que c'est peut-être perçu comme ça de la part de mes collègues. Et j'ai beaucoup de mal à travailler avec des professionnels qui ont des pratiques avec lesquelles je ne suis pas en accord. Ça, plus les conditions de travail hospitalières qui vont en se dégradant, enfin, à moins que ça se soit amélioré depuis que je travaille plus à l'hôpital, mais j'y crois pas trop. Et où c'est vrai que, ben voilà, on a de plus en plus de parents, de familles à s'occuper, même en service de maternité, avec de plus en plus d'accouchements et toujours de moins en moins de personnel. Donc, on tire sur la corde. Et c'est vrai qu'un jour, il y a eu une nuit où là, j'ai dit maintenant, stop. Et ça, j'ai raconté ça bah justement dans une de mes vidéos là sur Instagram. Parce que c'est important aussi de parler de ces conditions de travail qui sont juste pas possibles. Et c'est vrai qu'Anna Roy, elle a lancé le mouvement Une femme, une sage-femme, avec le hashtag aussi Je suis maltraitante. Et clairement, c'est ça. Donc pour moi, en fait, continuer à travailler dans ces conditions, c'était aussi cautionner en fait les conditions de travail. Mais ça, c'est mon vécu et mon ressenti, hein, ça m'appartient entièrement. Et c'est vrai que bah, j'ai eu besoin d'arrêter aussi pour montrer que j'étais pas d'accord avec tout ça et que c'était pas normal.
Parce qu'il s'était passé quoi, toi, cette fameuse nuit ?
Alors en fait, donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'accouchements. Et en fait, je me suis retrouvée à me retrouver en salle d'accouchement pour aider une collègue sage-femme. Et en fait, il n'y avait plus assez de matériel. Il y avait cette maman qui était en train d'accoucher, il y avait cette sage-femme qui était seule. Toutes ses collègues étaient occupées dans d'autres salles d'accouchement. Donc il n'y avait personne pour l'accompagner, personne pour l'aider, personne pour lui apporter un monito, etc. Tout était pris, en fait. Et du coup, bah, moi, je suis allée chercher ses collègues en toquant à la porte de toutes les salles de naissance en disant « elle a besoin de vous, elle a besoin de vous », parce que moi, je ne sais pas mettre au monde un bébé, clairement.
Oui.
Et du coup, ça a été très stressant. Et ensuite, il y a eu d'autres choses que je ne vais pas forcément évoquer là aujourd'hui, de la part de ma collègue sage-femme, qui était en tout cas sur le secteur de maternité, hein, pas en salle de naissance avec moi, qui n'ont pas été correctes du tout. Et là, je me suis dit, c'est fini. Vraiment, j'arrête. Là, cette maman, elle était en danger, ce bébé, il était en danger. Cette sage-femme, en salle de naissance, elle a fait tout ce qu'elle a pu, vraiment. Et elle a géré, et ça s'est bien passé. Franchement, moi, je lui tire mon chapeau. Je sais vraiment pas comment elle a fait. Mais voilà, je me suis dit que c'était fini, et du coup, j'ai arrêté. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans en structure petite enfance. Et là, depuis 1 an et demi, du coup, où j'ai juste ma micro-entreprise, et on va voir si ça marche ou pas.
Quand tu dis que tu as arrêté du jour au lendemain ou ça a pris
du jour au lendemain.
Ah oui,
je suis arrivée dans mon vestiaire, j'étais en pleurs, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit plus jamais je mets les pieds ici, c'est radical. Alors après, il faut savoir que moi j'étais en CDD avec plein de contrats limite à la vacation en fait, ou 2 ou 3, ou enfin voilà. Je n'étais pas en CDI, je n'étais pas en contrat de 2 ans non plus. Donc, peut-être que ça aussi, ça m'a permis de partir du jour au lendemain, du coup. Mais suite à cette nuit-là, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cet établissement.
Donc, tu as intégré le service de la petite enfance.
Oui.
Au bout de combien de temps ?
Alors, j'ai arrêté de travailler là-bas, si je ne me trompe pas, je sais plus si c'est janvier ou février. Et j'ai intégré la maison de la petite enfance, pareil si je dis pas de bêtises, en mars. Donc en fait, eux, ils m'ont appelé. Moi, j'étais pas du tout dans cette optique là tout de suite de rechercher du travail, puisque j'ai ma grand-mère qui avait un cancer et qui était en train de vivre ses derniers jours. Mmh. Et ils m'ont appelé, j'étais chez elle. Et à la base, c'était pour un remplacement de 10 jours. Donc j'ai dit ok, ça me va bien, 10 jours, ça m'engage à rien. Et au final, j'y suis restée 2 ans.
Et alors, à quel moment tu t'es dit que tu avais envie de monter ta structure à toi et de faire justement ce que tu avais envie avec ta façon de faire à toi ?
Alors, je pense que j'en ai toujours eu envie. Que clairement, moi, la maison petite enfance, ça a été une grosse bouffée d'oxygène. Vraiment, ça m'a fait un bien fou. Voilà, de voir aussi une autre facette de mon travail et d'être avec des enfants sains, des enfants plus grands. En fait, quelque part, j'avais un peu l'impression d'être à la maison, tu vois, de devoir faire des activités avec les enfants comme j'en aurais fait avec mes filles. Bon, bien évidemment, avec tout l'aspect professionnel qu'il y a derrière, ça reste quand même différent, mais je trouvais ça tellement plus léger que l'hôpital, avec tout ce stress, etc., de ces césariennes d'urgence, avec... bon, bref, je ne sais pas trop s'il y a des mamans enceintes qui vont nous écouter, donc je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais je trouvais ça tellement plus léger que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et ensuite, pendant le premier confinement, que moi j'appelle un vrai confinement du mois de mars, mars-avril, mon contrat, du coup, n'a pas été renouvelé.
Oui, forcément.
Enfin voilà, il s'est arrêté et du coup, il n'a pas été renouvelé. Donc, bah, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tenter. Voilà. Et en parallèle, du coup, je me suis aussi lancée dans l'écriture de mon livre. Donc, en plus, voilà, des ateliers que je propose ici en région toulousaine et des relaxations et méditations que je crée pour les enfants et pour les parents. Et c'est une nouvelle vie. On verra combien de temps on peut la vivre.
Ouais. Donc, c'est quoi l'idée aujourd'hui de ce que tu proposes ?
Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, donc là, depuis peu, je suis l'autrice du livre « Partager le meilleur avec mon enfant » qui est paru aux éditions Erol en septembre 2021. Donc déjà, c'est d'essayer au maximum de faire connaître ce livre et pourquoi pas d'en écrire d'autres également. Ensuite, donc, il y a les ateliers de portage, de massage, de communication gestuelle associée à la parole que je propose. Des consultations aussi d'infirmières puéricultrices, mais pour le coup indépendantes. Donc le gros inconvénient, c'est que ce n'est pas remboursé pour les parents. Donc on essaye de travailler dessus hein, avec les puéricultrices pour que ça change et que ça bouge et que les parents puissent être remboursés. Donc croyez-nous, voilà, on y travaille vraiment activement parce que je pense qu'il y a vraiment un très gros besoin. Surtout qu'il y a de plus en plus de coaching familial ou parental qui se développe avec pas mal de dérives et des coachs qui sont pas forcément professionnels ou qui s'y connaissent pas du tout en développement de l'enfant, en bébé, en nouveau-né, en nourrisson et en compétences en fait tout simplement médicales et paramédicales. Donc ça devient compliqué. Oui. Et ensuite, il y a également bah, de temps en temps des conférences aussi auprès des parents sur tout ce qui est développement de l'enfant, yoga aussi, relaxation et du coup... Comment appréhender les émotions de son enfant dans le quotidien, essayer de bien vivre avec, et encore plus quand on a des enfants hypersensibles, puisque je suis moi-même hypersensible. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me parle et qui est très important pour moi. Et voilà, et donc d'essayer avec tout ça, de voir s'il est possible d'en vivre ou pas, et de voir si après je reviens en structure ou pas.
Ouais, t'es pas fermée à l'idée d'un jour repartir en structure hospitalière ?
Alors, hospitalière, non. Extra-hospitalière, oui.
D'accord.
Non, il faudrait vraiment que j'ai vraiment plus le choix financièrement et que je sois au bord du bord. Mais je pense que je suis prête, en fait, à faire n'importe quel autre métier qui soit pas diplômant et qui me permette d'avoir un travail alimentaire plutôt que de retourner, je pense, à l'hôpital.
Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans ce que tu fais, dans cet accompagnement ? Qu'est-ce qui te paraît essentiel justement pour tous ces parents ?
Alors c'est vraiment qu'ils puissent vivre leur parentalité. Vraiment qu'ils se sentent libres en fait d'être eux, de faire leur choix, d'écouter ou d'entendre ce que l'entourage proche, moins proche peut dire. Mais que vraiment, au final, ils puissent faire leur choix à eux, ce qui leur parle, sans se sentir forcés de faire quelque chose parce qu'on leur a dit je sais pas quoi, ou qu'ils ont lu un article et que, voilà, il paraît que c'était bien ou bon pour l'enfant, donc on le fait, mais voilà, au final, on n'apprécie pas forcément, tu vois. Enfin, c'est en fait que chaque parent comprenne qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup voilà, du portage, du massage, du yoga, etc. C'est bien d'avoir tout ça en tête, de savoir que ça existe. Si on a envie de tester, on teste. Et si on n'a pas envie, on ne le fait pas. Mais que pour autant, il n'y a pas de... C'est comme ça qu'il faut faire. Vraiment, si jamais vous entendez quelqu'un qui vous dit « il faut » ou « tu devrais » ou enfin voilà, tout ce type d'injonction-là, eh bien, on peut laisser parler la personne Et après, nous, on voit ce qu'on en fait. Mais vraiment, sentez-vous libre de vous informer. Voilà, parce que je pense que l'information, c'est aussi un peu le pouvoir, parce qu'on entend aussi beaucoup parfois de parents qui disent « Ah, mais ça, moi, je n'étais pas au courant à l'époque où j'ai eu mes enfants, etc. J'aurais bien aimé voilà, faire ci, faire ça. » Donc vraiment, renseignez-vous sur tout ce qui se fait, tout ce qui est possible, etc. Et ensuite, voyez-vous ce qui vous parle et vous, ce que vous avez envie de faire. C'est vraiment important d'avoir cette liberté-là. Et puis, je sais qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup du coup d'informations aussi qui nous viennent, beaucoup de familles et qui montrent ce qu'elles font, comment elles sont, etc. Et moi aussi, hein, je partage un peu sur tout ça. Mais gardez toujours une certaine distance avec aussi ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Gardez bien en tête que c'est un petit bout, que si ça vous fait trop envie ou voire peut-être vous sentir mal par rapport à vous, ce que vous faites, ce que vous êtes ou sur votre quotidien, dites-vous que enfin, vous avez ce pouvoir de vous désabonner et de plus aller regarder. Parce que c'est pas parce que là, à un moment donné, la personne montre quelque chose de beau, d'agréable, etc., que le reste de sa journée, elle n'a pas été pourrie. Mais c'est vrai que c'est plus facile de partager les moments de joie, parce que l'émotion de la joie, c'est tout simplement une émotion qu'on a envie de partager. On est vraiment dans le partage, voilà, avec la joie. Alors que quand on ressent de la tristesse ou de la colère, on est plus dans l'isolement. Et ce sont des émotions qu'on a moins envie de partager. Et c'est vrai que, bah voilà, sur les réseaux sociaux, les trois quarts du temps, les gens partagent le positif, le beau, l'agréable. Gardez en tête que c'est juste plus facile à partager que le reste et que c'est pas pour autant qu'ils galèrent pas autant que vous. Et que des fois, voilà, on s'imagine des choses chez les autres, mais c'est pas forcément le reflet de la réalité et l'herbe, elle est pas forcément plus verte ailleurs.
Et pourquoi toute cette pression sur la parentalité qui semble s'exacerber au fil des mois, des semaines, des années?
Pourquoi, je sais pas. Je pense qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, nous, on vit dans une ère où il y a une grosse pression autour de la parentalité. Surtout, tu vois, avec des phrases du type « il faut que ton enfant fasse ses nuits » et « il faut pas laisser son bébé pleurer ». Et du coup, c'est vrai qu'on a aussi en parallèle beaucoup plus d'informations avec les neurosciences aujourd'hui sur le développement du bébé, les impacts sur son cerveau, etc. Je pense qu'il y a des informations qui, pour moi, et ça c'est vraiment mon avis personnel, à la base sont faites pour être à destination des professionnels pour pouvoir accompagner au mieux les familles, mais au jour d'aujourd'hui sont mis en lumière et à disposition des parents. Et pour moi, ne devrait pas forcément l'être. Ça, c'est très personnel et peut-être qu'on va me jeter des cailloux de dire ça. Mais j'assume totalement. Je pense que tout savoir à 100%, c'est pas forcément le rôle ou la place d'un parent. Sinon, il serait professionnel, en fait. Donc, c'est vrai que du coup, toutes ces connaissances-là, certaines sont très importantes et très utiles. D'autres peuvent mettre aussi une grosse pression, parce qu'il peut y avoir un décalage entre ce qu'on lit de ce qui serait important de faire avec son enfant et de soi ce qu'on a vraiment envie de faire. Et des fois, d'être face à ce décalage, ben, ça peut être violent. Voilà. Et ça peut être culpabilisant, et enfin, bref. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, voilà, les langues se délient aussi, tout le monde se parler de tout, sans forcément mettre les formes. Et des fois, suivant comment sont formulées certaines informations ou certaines choses ou certains vécus, ça peut amener les personnes qui lisent à culpabiliser. Et des fois, il s'agit juste d'une formulation pour que la personne qui lit ne se sente pas culpabilisée. Même si effectivement, on dit souvent que la culpabilité nous appartient, que c'est peut-être qu'on a une blessure ou quelque chose à travailler, etc. Moi, je pense que des fois, la façon dont le message est passé, ça peut faire culpabiliser des gens aussi. Alors que dit autrement, ça n'aurait pas fait culpabiliser les parents. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse pression autour de la parentalité par rapport à toutes les connaissances qu'on a et c'est pas forcément toujours très aidant. Donc moi je suis très curieuse de savoir ce que l'impact des réseaux sociaux va faire sur l'être humain de façon globale et générale dans quelques années. Je me questionne beaucoup.
Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité ?
Je pense que ça a changé énormément de choses dans déjà celle que je suis. C'est-à-dire que moi, ça m'a permis de mieux me connaître. Parce qu'en fait, effectivement, quand les comportements de mes filles déclenchaient en moi des émotions fortes ou des sensations très désagréables, j'ai toujours essayé de comprendre, en fait. Et pourquoi j'ai réagi comme ça? Voilà, en me disant, mais peut-être que si c'était un autre parent, lui, il serait zen, en fait, face à cette situation. Pourquoi toi, là, tout de suite, ça te fait prendre la mouche? Et donc, voilà, ça m'a permis d'aller creuser sur celle que je suis, sur mon vécu, sur mon enfance, sur ma relation avec mes parents, etc., ou mon entourage. Donc déjà, ça m'a beaucoup appris sur moi. Ensuite, bah, comme on le disait, ça a changé beaucoup de choses aussi dans ma profession, dans mon approche avec les parents, dans ma façon de leur transmettre aussi tout un tas d'informations. Et je pense que ça m'a donné encore plus envie de me battre aussi pour les droits des enfants et pour le consentement des enfants. Ça, c'est vraiment deux points clés qui me tiennent énormément à cœur. Et je sens que vraiment à l'intérieur de moi, tu vois, ça bouillonne et en fait, ça a vraiment besoin de sortir, en fait. Donc, voilà. Et tout ça, avant, c'était inexistant. Je dis pas que ça m'intéressait pas, hein, mais ça avait pas cette intensité-là.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Oui.
C'est quoi pour toi être une maman toulousaine ?
C'est avoir la chance d'avoir à proximité une école Montessori aussi, qu'on n'aurait peut-être pas eu en habitant dans une autre ville.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
Alors pour moi, ça reste vraiment les parcs et les lacs. Donc ici, il y a deux lacs. Il y a le lac de Sainte-Foy d'Aigrefeuille et le lac de Revel.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors rien que pour moi, je pense que c'est l'écriture d'autres livres. Et ce, en famille, j'irai juste de vivre et de profiter au maximum tous les quatre.
Merci beaucoup, Nadège.
Merci à toi, Shane.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum.